Octave Mirbeau, Les millions de Jean Loqueteux. Jean Loqueteux, fatigué d'avoir longtemps marché, s'assit sur la berge de la route. Le soleil perçait les brumes, dégelait la terre, amollissait l'herbe où le givre fondait en eau. Et personne ne passait sur la route. Jean Loqueteux enleva de son dos sa lourde besace toute pleine de cailloux, compta les cailloux en les alignant près de lui, et les remit avec gravité et respect, et se dit: Eh bien, le compte y est, oui, oh, j'ai toujours mes 10 millions. Et c'est curieux, vraiment. J'ai beau les donner à tout le monde, car je ne suis pas un mauvais riche. Il manque jamais un seul. 10 millions, oui, c'est bien ça. Sous besace à besace, il gémit. Mais c'est lourd à porter, 10 millions. Mes épaules en sont toutes meurtries et mes reins n'en peuvent plus. Et j'ai l'onglet au doigt. Oh, si j'avais encore ma femme, elle m'aiderait, parbleu. C'était une rude femme, oh, et forte comme un dogue. Mais elle est morte. Morte d'être trop riche. Mon fils aussi est mort. De je ne sais pas quoi. Alors moi je suis tout seul maintenant pour le fardeau. Oh, ce n'est pas assez. Il faudra que j'aie une petite voiture que je pousserai, tirerai devant moi-même ou que je ferai tirer par un chien. Oh Dieu, que je suis là. Et quel froid, malgré le soleil. On ne se doute pas de ce que les millionnaires sont parfois de pauvres gens et à plaindre, à plaindre. Oh Seigneur Jésus, ils sont à plaindre. Ainsi moi, j'ai des millions, c'est sûr, puisque je les ai là dans ma besace. Eh bien, il n'empêche que je suis là, seul sur la route, comme un vagabond. Et ces jours de Noël, il y a des pauvres qui mangent de l'oie devant des flambées de bois sec, pour c'est-à-dire rien comprendre. L'humidité traversait ses guenilles. Il changea de place sur la berge. Vraiment, fit-il encore. Il y a des moments où j'aimerais mieux être un pauvre homme, comme j'en rencontre tant sur les chemins, un pauvre diable de mendigo, n'avoir pas un sou sur moi et vivre de la charité des passants. Ma foi, oui. Il regarda la route à droite, à gauche, et secouant la tête, il soupira. Il est vrai qu'il ne passe personne, qu'il ne passe jamais personne. Jean Loqueteux était presque nu à force d'être vêtu de guenilles. Non pas même de guenilles, mais de lambeaux, d'ordures, de filochages de guenilles. Des filochages que la crasse agglutinait. Sa peau apparaissait rouge et percée, gercée entre les déchirures de ses vêtements, de ses effrangements, de sa veste. Il avait des bras de paille, des bras de laine, des bras de plume dans sa barbe qui ressemblait à les bouffements d'un nid de moineau. Ayant fouillé dans sa poche, il en sortit une croûte de pain dure et noire comme un morceau de charbon. Il la mangea lentement, méthodiquement. Sous ses dents, le pain faisait un bruit de cailloux qu'on casse. Mais de temps en temps, il interrompait de manger et il disait, la bouche pleine et les gencives saignantes, ouais, mais je comprends rien. J'ai 10 millions. Ils sont là, toujours à portée de ma main. Je peux y puiser tant que je veux. Et je serais bien bête de ne l'y pas puiser puisqu'ils se renouvellent à mesure que je les dépense. Quand il n'y en a plus, il y en a encore. Il y en a toujours. Je fais des largesses aux pauvres de la route, aux petits soldats en promenade, aux vieillards qui se navrent sur le pas de leur porte, aux jolies filles qui vont chantant le long des haies, dans le soleil. Je les jette aux quatre coins du ciel et de la terre. Je n'en vois jamais la fin. Eh bien, jamais je ne peux me procurer un autre pain que celui que je mange ici. Ouais, il est pas bon. Il sent la boue et la sueur. Il sent le fumier. Il sent, pff, je ne sais quoi. Et les cochons eux-mêmes n'en voudraient pas. Et un jour de Noël, un jour de bombance et de liesse. Oh, il y a quelque chose qui ne va pas dans le monde, que je n'explique pas, un malentendu que je ne comprends pas. Il hochait la tête, tâtait sa besace. Et entre deux coups de dents, il répétait, enfin, j'ai 10 millions, c'est sûr, les voilà. Je les tâte. Être riche et ne pas manger à sa faim, ça, c'est impitoyable. Ne pas pouvoir dormir dans un lit. Non plus dans une maison, à l'abri du soleil et de la gelée, et toujours rebuter les hommes et mordu par les chiens quand je m'approche d'une habitation. Ah, c'est fort. C'est vrai, oui. Mais le monde ne va pas comme il faudrait. Ayant fini de manger, il s'étendit sur le rebord du fossé, sa besace entre les jambes, et s'endormit d'un sommeil tranquille et profond. Ce jour-là, Jean Lequeteux fut ramassé par les gendarmes sur la route où il rêvait de merveilleux palais et d'opulentes tables chargées de victuailles et de pain blanc. Et comme il n'avait point de papier, comme ses propos attestaient une incohérence inhabituelle à ce genre de va-nu-pieds, les gendarmes le jugèrent dangereux, assassin peut-être, et sûrement incendiaire, et finalement l'emmenèrent à la ville, où il fut jeté au poste brutalement en attendant mieux. Après avoir subi divers interrogatoires et de méticuleuses enquêtes sur son passé, il fut conduit en prison où il tomba malade et à l'hospice où il faillit mourir. Mais sa santé revenue, le médecin établit dans une consultation savante le dérangement des facultés mentales du pauvre diable et conclut à son admission immédiate dans un asile de fous. Jean Loqueteux fut doux et poli, et tenta de se disculper du mieux qu'il put, en parlant de ses 10 millions en termes modestes et choisis, offrit de consacrer une grosse somme à une œuvre de bienfaisance, et on ne l'écouta même pas, et on le traita même avec plus de rudesse qu'il n'eût convenu, et un matin, les lourdes portes de l'asile se refermèrent sur lui. Dans sa nouvelle carrière de fou, et de fou officiel, Jean Lacerteux se montra infiniment doux, serviable, utile et fidèle. Séquestré d'abord dans le quartier des fous tranquilles, pendant 2 années d'observation, pendant lesquelles nulle crise de démence dangereuse ne se manifesta en lui, on le laissa pour ainsi dire libre. J'entends qu'on en fit une sorte de domestique et qu'on l'accabla de travaux de toutes sortes. On l'employait même parfois en dehors à des besognes pendant lesquelles ça cachait sa responsabilité morale, dont il s'acquittait le mieux que possible avec intelligence et probité. Dans les premiers temps de son internement, il parlait souvent de ses 2 demi-millions avec des airs entendus et secrets et prometteurs. Quand il voyait un de ses camarades malheureux, il lui disait: Ne pleure pas, aie courage. Le jour où je serai sorti d'ici, j'irai chercher mes 10 millions et je t'en donnerai un. Il en avait ainsi distribué plus de 100. Mais bientôt, cette manie diminua et finit par disparaître au point qu'il se laissa plus prendre au piège que le directeur et le médecin tendaient à sa raison. Si le docteur, habilement, par de subtils détours, ramenait ses souvenirs à la cause de son ancienne folie, Jean le Coteux souriait, haussait les épaules, semblant dire: Oui, j'ai été fou autrefois. Je crus à la réalité de ces 10 millions. Mais aujourd'hui, je sais bien que c'était des cailloux. Et durant plusieurs années, pas une fois il ne se démentit. Tout le monde le crut guéri, et il fut question de lui rendre la liberté. Lui-même, avec des accents touchants et de touchantes prières, l'avait maintes fois sollicité, repris de la nostalgie des routes, des granges où l'on couche le soir, des berges herbues où la lassitude vous invite sous la féerique baldaquin, des ciels étoilés. Mais le médecin hésitait encore. Un matin, il fit appeler Jean Loqueteux pour une dernière épreuve. Le docteur l'assistait, plus grave que de coutume, et quelques employés de l'asile avaient été aussi convoqués. Jean Loqueteux, dit le médecin, je vais vous signer votre exeat, mais auparavant, j'ai quelques questions à vous poser. Tâchez d'y bien répondre. Les fous ont quelquefois d'admirables divinations. Jean Loqueteux perçut une certaine hostilité dans le regard du médecin. Il sentit que tous ces gens s'étaient réunis là pour le faire tomber dans une embûche. Alors il eut une idée. Monsieur le docteur, dit-il, je voudrais vous demander une seconde à vous seul. Et quand les autres se furent éloignés, Monsieur le docteur, reprit-il, il faut que je parte d'ici. Et je sens que vous ne le voulez pas. Eh bien, si je pars, écoutez-moi bien, votre fortune est faite. Allons donc, ma parole d'honneur. Et comment cela? Je vous donne 1, 2, 3 millions. Comment? Vraiment? Je vous le jure. Et 3 millions ne suffisent pas, eh bien je vous en donnerai 5, 6, 8. Et où sont-ils, vos millions, mon pauvre Loqueteux? Ils sont, monsieur le docteur, dans un endroit que je sais, au pied d'un arbre, sous une grosse pierre. Et il doit en avoir fait des petits depuis le temps. Mais chut! Voilà monsieur le directeur qui revient et qui nous écoute. Je ne veux rien lui donner à lui. Et le soir même, Jean Loqueteux réintégrait le quartier des fous et il gémissait devant ses camarades. Oh, je suis trop riche. On m'en veut de ma richesse. Je suis trop riche.